Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui vous donne la parole. Ce jeudi 19 août est la journée mondiale de l'aide humanitaire, une occasion pour nous d'échanger avec vos auditeurs sur les actions des humanitaires en RDC. Cette journée est instituée par l'Assemblée Générale de l'ONU en décembre 2008 pour contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale dans le domaine. C'est aussi une journée pour rendre hommage à tout le personnel humanitaire, au personnel des Nations Unies et au personnel associé qui s'emploie à promouvoir la cause humanitaire et surtout rendre hommage à celles ou ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission. En même temps, cette journée permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les besoins d'aide humanitaire dans le monde. La question pour lancer notre discussion, comment percevez-vous les actions des humanitaires dans votre milieu? Séraphin Kazadi est notre invité, il est en charge des affaires humanitaires adjoint au niveau du bureau de OCHA, OCHA qui est le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. Et nous disons merci déjà à Pierre Lamenji, à Nicole Ngaka, à Titine Poutou qui sont à la réalisation de cette émission, Sylvain Martundou et à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour Monsieur Séraphin Kazadi.
Bonjour.
Comme je l'ai dit, vous êtes chargé des affaires humanitaires adjoint au niveau du bureau de OCHA, qui est le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Aujourd'hui, Parole aux auditeurs se consacre à l'aide humanitaire en RDC, en marge de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Un petit rappel sur cette journée du 19 août, parce que le monde se rappelle, en fait, c'était en 2003, de l'attentat à la bombe perpétré contre le bureau des Nations Unies en Irak. Et cela a fait 22 morts, dont le représentant spécial du secrétaire général, c'était Monsieur Sergio Vieira de Mello, qui est décédé au cours de cet attentat. Avant cette date et depuis lors, nombreux d'autres agents d'aide humanitaire ont perdu leur vie ou bien ont été blessés au cours de leurs activités. Et aussi, par exemple, il y a 2 jours, des casques bleus des forces de la MONUSCO qui ont été tués à Kirumba, au nord Kivu. Donc cette journée, c'est aussi une journée où on peut se rappeler, où on peut consacrer en fait à toutes ces personnes. Donc, comme je l'ai dit, M. Séraphin Kazadi, dites-nous un peu que représente en fait pour vous en tant qu'humanitaire, parce qu'avant cela, avant d'être à OCHA, vous avez travaillé dans les ONG ici en RDC, les ONG locales. Pour vous, qu'est-ce que cette journée représente?
Merci beaucoup. Cette journée, pour moi, représente une journée de joie et de tristesse en même temps. De joie, pourquoi? Parce que quand je vois la population affectée soulagée, quand je vois les déplacés retourner dans leur milieu d'origine, quand je vois le malade guéri, ça me fait de la joie. Mm-hmm. Ça me fait de la peine quand je vois de personnes souffrir. Quand je vois des humanitaires mourir sur le champ de dans l'exercice de leurs fonctions, mm-hmm. ça me fait beaucoup de la peine. Mm-hmm. Donc c'est une journée pour moi qui m'amène de larmes et de joie en même temps.
Mais dites-nous en bref, qu'est-ce qu'une aide humanitaire en soi?
Une aide humanitaire en soi est une forme de solidarité ou de charité, généralement destinée aux populations pauvres, aux populations sinistrées ou aux populations confrontées à une guerre qui cherche à répondre à des besoins divers. des besoins tels que la faim, la santé, la reconstruction après un sinistre, l'éducation, la protection des enfants, la mise en place de réseaux d'eau et de communication. Donc, on distingue souvent à ce sujet l'aide d'urgence et l'aide permanente.
Donc, c'est différent. Quand une population bénéficie d'une aide d'urgence, ou comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une aide d'urgence?
L'aide humanitaire, que nous appelons l'aide d'urgence, donc peut prendre diverses formes. Donc, don d'argent, envoi de marchandises, équipements de première nécessité, envoi du personnel faisant des interventions sur place. Donc, il y a une différence pour nous entre l'assistance humanitaire, l'aide humanitaire et l'aide au développement. L'aide humanitaire pour nous est basée sur deux axes, sauver des vies et alléger les souffrances de populations qui souffrent.
C'est souvent ponctuel. Hein.
C'est souvent ponctuel. Donc, les gens meurent, il faut directement sauver des vies. Là, c'est l'aide d'urgence, c'est l'aide humanitaire. Et tandis que l'aide au développement, c'est à long terme, ça prend du temps.
C'est par exemple ce que fait le PNUD.
Ce que fait le PNUD, par exemple, qui est une agence des Nations Unies pour le développement.
Ou bien ce que fait l'UNICEF dans certains
programmes. Voilà, dans certaines nos interventions.
Nous allons écouter des auditeurs. Hein, ils vont nous dire ce qu'eux, ils ont constaté chez eux. Que font en fait les humanitaires dans leur milieu? Il y a déjà Rodrigue qui est à Baraka et Kyulu à Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Rodrigue, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Dites-nous, Rodrigue, vous êtes à Baraka. Comment vous percevez les actions des humanitaires dans votre milieu?
Oui, les actions des humanitaires, les actions sont positives, mais ce ne sont pas des actions durables.
Durable, qu'est-ce que vous voulez dire par cela?
Écoutez, madame, ils viennent et ils assistent des gens avec de la farine. Aujourd'hui, vous allez manger et ça va se terminer. Moi, je crois qu'ils pouvaient bien orienter les gens au développement, à développer leur milieu. Par exemple, le milieu dans lequel nous vivons, nous avons connu la guerre, nous avons connu des tristesses. Mais là, ils viennent, nous assistent avec de la farine. Ça va nous amener où? Moi, je crois... Ça pouvait bien nous aider si ces actions-là étaient très durables.
Donc, elles sont pérennes. Merci beaucoup, Rodrigue, pour votre proposition, votre avis par rapport à l'aide humanitaire à Baraka, ce que vous avez constaté à Baraka. Bonjour, Kyulu.
Merci beaucoup, madame.
Kyulu, bonjour.
Moi, je suis à Kinshasa.
Kyulu, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Vraiment, quand ils sont bien là, ça va.
Donc, combien, qu'est-ce que vous avez constaté, un certain changement à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il y avait avant et avec l'intervention des humanitaires, cela a changé quelque chose? Est-ce que vous pouvez...
Ils se sentent plus basés seulement à sauver des vies, mais sur le point d'autre, là, non, on n'a jamais vu ça à Kinshasa. C'est un coup de chapeau pour eux.
Donc, vous appréciez le travail des humanitaires, vous dites qu'ils ont sauvé des vies. Quand vous dites sur le premier axe, le second axe, c'est lequel?
C'est celui de sauver des vies, comme quand il y a eu pendant les élections, les tirailles.
Ok, merci beaucoup, Kyulu, pour votre participation. Vous appréciez le travail des humanitaires. Nous retournons à l'est de la RDC, parce qu'avant, on avait quelqu'un de Baraka, c'est à l'est. On retourne à Walikale, cette fois-là, où se trouve Katindi. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Et Katindi, on vous écoute.
Bon, nous, quand on dit le travail des humanitaires, c'est à la fois positif et à la fois négatif à Walikale. J'ai dit positif pourquoi? Parce qu'il y a une certaine réalisation concrète de ONG qui sont basées à Walikale. Et également négatif pourquoi? Il y a un adage qui nous dit tout ce que vous faites pour ça, ça moi je le fais contre moi.
Si vous pouvez, Katindi, est-ce que c'est possible que vous puissiez souffler, Katindi? On n'entend pas très bien, on a l'impression qu'il y a des petits bruits hein, quand vous êtes en train de parler. Est-ce que vous pouvez un peu changer de position, comme ça on pourra mieux vous écouter et parler un peu plus clairement? Peut-être qu'il y a un autre problème, particulier. Essayez encore une fois, peut-être qu'on pourra mieux vous écouter. Vous êtes en train de dire qu'il y a une action positive et négative. On vous écoute.
Ça va. Aujourd'hui, il y a vraiment des actions positives et des actions négatives. On dit positives quand il y a cette réalisation en fait ici en local. Et négatif pourquoi? Parce qu'il y a une réalisation que font le monde international basé à l'Ocalo sans pouvoir associer l'association à un niveau local. Moi, la base de l'autre, c'est ce que vous faites pour moi, c'est pas moi, vous le faites.
En tout cas, Patindi, là, Patindi, si vous faites Patindi, là, on n'arrive pas très bien, vous suivez peut-être la réalisation, pourra essayer de pouvoir vous recontacter, peut-être la qualité sera meilleure, mais en bref, on a compris que vous pensez qu'il y a des réalisations qui sont positives, d'autres négatives. Négatives, vous avez fait allusion au fait que des fois, les structures qui viennent aider la population dans le cadre de l'aide humanitaire ne s'associent pas aux structures locales, hein, pour savoir quels sont les besoins réels de la population. Merci, Katindi. On va essayer plus tard peut-être de pouvoir vous recontacter si on arrive à avoir une meilleure qualité. Nous allons au centre du pays où se trouve Destinée. Bonjour.
Bonjour, enchantant.
Akalanga, quelle est votre perception de l'aide humanitaire?
Ma perception est positive parce qu'il faut, il y a de quoi se frotter les mains, nous, peuple congolais. Toutes les actions en termes d'aide humanitaire qui ont été entreprises et qui sont en train d'être entreprises dans notre État, c'est une action, je crois que ça soutient l'État congolais là où les choses ne marchent pas, c'est une bonne chose. Je crois qu'en grande partie, toutes les actions humanitaires sont bonnes parce que nous, Congolais, nous savons d'où nous venons, où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui, avec ces pays qui ont déchiré le pays. Je crois que c'est par ces aides que la communauté internationale cherche à nous envoyer des munitions de guerre pour nous tromper. Voilà, non, ce sont des aides humanitaires.
Donc, vous pensez qu'il y a autre chose qui se passe en dehors de l'aide humanitaire? Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer cela?
Oui, dans des aides humanitaires, c'est la voie par laquelle la communauté internationale profite pour envoyer des munitions de guerre et organiser des munitions.
Est-ce que vous avez des preuves, vous avez des exemples?
Oui, il y a des preuves. À l'Est, on avait autrefois suspendu ces aides humanitaires. Je crois que votre invité sur le plateau connaît ce qui ça a été, nous en dire plus.
En tout cas, notre invité est là. Bon, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais notre invité est là, il vous a suivi, peut-être qu'il pourra nous donner un éclaircissement là-dessus. Merci beaucoup, Destiné, vous êtes à Kananga.
Parole aux auditeurs.
En fait, nous sommes avec M. Séraphin Kadadi dans ce studio. Avec lui, c'est lui notre invité au cours de cette émission. Il est chargé des affaires humanitaires adjoint au niveau de OCHA, qui est le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Vous avez suivi nos auditeurs, des préoccupations, la préoccupation des destinés qui pensent qu'à travers l'aide humanitaire, il y a certaines choses qui se passent, par exemple, faire traverser, faire introduire des armes. Est-ce que cela est vrai?
Je veux revenir à Destiné, mais je commence par Rodrigue, notre ami de Barata. Rodrigue, il dit que il est très content des actions. L'avis de tous les intervenants, donc ils ont dit que c'est l'action est très positive. Le travail des humanitaires est positif en République démocratique du Congo. Mais Rodrigue, il dit que les actions ne durent pas. À Barata, je connais très bien Barata, nous avons fait beaucoup d'actions humanitaires au niveau de Barata depuis maintenant bientôt 10 ans qu'on a été à Barata et on continue à travailler à Barata. Mais j'aimerais un peu recadrer les choses pour dire que les objectifs de l'action humanitaire sont les suivants. Je l'ai dit au début, c'est sauver des vies, alléger les souffrances et maintenir la dignité humaine après ou pendant les crises d'origine humaine et aussi de catastrophes naturelles. Donc on est là, c'est pour sauver des vies, alléger les souffrances et maintenir la dignité humaine.
Donc, pour Rodrigue, lui, il souhaitait que ce soit un peu, c'est pour ça que ce soit élargi sur le temps, vous êtes ponctuel, souvent vous maintenez des actions ponctuelles. Est-ce que dans ce programme, vous envisagez, en fait, quelles sont les structures qui pourront, après que vous soyez passé par là, d'une façon ponctuelle, qu'elles puissent continuer à pouvoir aider ces populations? C'est un peu ça la préoccupation de Rodrigue.
Si vous êtes la réflexion, par exemple, la réflexion de centres de santé, la réflexion des hôpitaux de référence, la construction de puits d'eau, ce sont des actions durables qui restent. La construction des écoles, par exemple, la réflexion des écoles, la construction ou la fabrication de bancs dans les salles de classe, ce sont des actions durables. Ce sont des actions durables. Mais pour nous, on aimerait canaliser notre action sur l'humanitaire et rester sur l'humanitaire. Parce qu'on n'a pas assez de moyens maintenant à l'RDC jusqu'à présent. Le plan d'action 2010, on est à 48%. Donc on ne sait pas si on va atteindre nos 75%. Donc pour l'année prochaine, on aimerait recadrer nos actions sur l'humanitaire, uniquement humanitaire. Et pas déborder dans le développement. Mais il y a d'autres acteurs qui peuvent faire le développement.
Mais c'est vrai que vous êtes en train de coordonner, en fait, le bureau qui a coordonné l'action pour des cas, par exemple, d'urgence. Mais est-ce que vous arrivez à des fois à pouvoir collaborer avec d'autres agences, d'autres structures qui s'étendent sur le temps, comme ça, quand vous avez fini vos actions d'urgence, que la population ne se sente pas délaissée? Parce que je me souviens, au nord du Katanga, il y avait une structure qui travaillait dans le cadre d'urgence, mais le jour où cette structure est partie, c'était dans le domaine de la santé. Ils avaient l'habitude de recevoir des soins gratuitement, de recevoir les médicaments gratuitement, mais le jour où la structure est partie, on a laissé un vide. Est-ce que vous pensez, dans votre collaboration avec d'autres structures qui s'étendent sur le temps, pouvoir envisager que la population ne sente pas, en fait, ce vide?
C'est une très bonne question. On y travaille déjà. Donc, pour le moment, nous sommes en train de mettre le mécanisme de coordination permanent dans toute la province. Maintenant, là, je viens du Kasaï oriental, où on vient d'implanter ces mécanismes, ce cadre de concertation permanent entre les acteurs humanitaires, les acteurs de développement et les autorités provinciales. C'est un cadre de discussion pour voir que quand les humanitaires vont partir, qu'il n'y a pas un vide. Donc les acteurs de développement et les autorités provinciales continuent l'action. Donc on y pense déjà, on y est déjà, dans toute la province, on est en train de mettre en place des cadres de concertation permanente.
Alors revenons à la préoccupation des destinées, à l'affirmation de destinées.
Je sens que tu aimes bien destiné. Oui, destiné de Kananga, il est aussi très positif. Il a dit qu'on travaille très bien et que nos actions sont très positives, mais il a dit seulement que les aides humanitaires, c'est la voie par laquelle les organisations internationales profitent pour acheminer de munitions à l'RDC. Moi, ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans le domaine humanitaire. J'étais avec le HR, qui est tellement beaucoup plus accusé aussi par nos amis comme destinés. Je travaille avec le HR à l'est du pays, pendant le moment le plus chaud. Jamais je n'ai vu pareille chose. Je ne sais pas s'il a vu où. Je viens de l'Équateur maintenant, la crise Eignelée, tout ça, avec le gouvernement, tout ça. Nous, on est neutre. Nous travaillons sur le principe de neutralité. Nous avons deux principes. Nous avons quatre principes fondamentaux. Nous avons, c'est l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Donc, l'humanité, c'est le principe directeur de l'aide humanitaire. Il repose sur l'idée que les victimes de conflits sont avant tout des êtres humains et que rien, pas même la guerre, ne peut le priver du minimum qui exige le respect de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie. L'impartialité, l'aide humanitaire doit être distribuée sans distinction ethnique, religieuse ou politique. Elle s'effectuera selon le besoin, les ressources et les capacités disponibles. Et puis la neutralité. C'est-à-dire, les agences humanitaires doivent fournir de l'aide en s'assurant de la neutralité et du caractère apolitique de leur action.
Donc, vous pensez que ce que destiné à...
Non, c'est ce que les gens disent, il faut qu'ils se rapprochent de nous pour savoir ce que nous faisons.
Oui, nous avons aussi d'autres auditeurs qui voudraient aussi s'exprimer, assistant à Italé, Séraphin Ouvira, les villes à Kalanga, mais une dernière préoccupation hein, de notre auditeur Katindi de Walikale, il disait qu'il y a des fois des aides qui arrivent qui ne correspondent pas aux besoins des populations, donc... il y a des fois ce contraste-là. Des fois, on amène quelque chose. Il a dit on n'associe pas les associations locales, des fois, dans l'exécution de ces humanités, la façon dont ils travaillent sur terrain.
Alors, on les associe toujours. On les associe. À Walikale, il y a beaucoup de déplacés. Nous, on a un bureau à Walikale. C'est moi qui ai ouvert le bureau de Walikale il y a au moins 5 ou 6 ans. À Walikale, on associe toujours la société civile. Dans laquelle il y a les ONG locales, on les associe, l'autorité locale, l'administrateur du territoire de Walikale, on l'avait associé dès le départ de notre installation à Walikale, donc on associe le bénéficiaire. Mais dans nos principes, on ne peut pas travailler sans associer le bénéficiaire.
Parole aux auditeurs.
Nous restons à Walikale où était Katindi, maintenant c'est Fiston. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi qui me captent en RDC à Walikale en particulier.
Oui, à Walikale c'est sur 104.9. On vous écoute, Fiston.
Ouais. En fait, par rapport à cette problématique sur les aides humanitaires, je vous dis ce que M. Katindi a dit bien qu'avant, ça c'est sûr. Et quel que soit que ce dernier compte invité à notre émission de la radio Kapi là-bas, je vous dis par rapport à une associée pour les jeunes locales, ça c'est vrai. Parce que vous allez voir, même, il y a des fois que nous arrivons dans des réunions des agences humanitaires où on vous dit. Présentement, nous avons besoin de ONG internationales. Et ces ONG internationales sont comptées au bout des doigts. Ou, à Walikale, actuellement, la situation est catastrophique. Ou, jusqu'à maintenant, même les ONG qui sont concentrées simplement à Goma, au lieu de venir à Walikale, n'est-ce pas, pour aider cette population victime de guerre, victime pas mal de choses qui se passent. Donc, je vous dis, avec des ONG là, internationales, que ce soit les agences des Nations Unies, n'associe pas, ça c'est vrai, n'associe pas les ONG locales de développement. Et c'est ce que nous déplorons très très souvent, et ça nous fait assez que nous soyons déçus avec le système, avec des interventions des agences humanitaires, même des ONG internationales. Ça ne va pas bien. Nécessairement, ils doivent collaborer avec les ONG locales présentes ici à Walikale. Nous en avons besoin. Nous sommes dans une phase de consultation de la paix, où, n'est-ce pas, on n'a pas besoin des interventions qui est à moindre coût, ou du moins, nous voulons, n'est-ce pas, des interventions durables pour consolider la paix à l'est de la RDC et à notre RDC en général.
Merci, assistant, parce que de Walikale, nous restons à l'est de la RDC, mais c'est pas au sud de Kivu. Bonjour, Séraphin.
Oui, bonjour, madame Ressentin.
Vous êtes en Vira, on vous écoute.
Oui, merci de l'opportunité que mon frère a participé à votre émission. Et pas le nom que la décence, je nous oblige maintenant de dire aussi bonjour à votre invité qui est mon nom. Peut-être que vous voulez dire, vu l'émergence de crise humanitaire à toute la mer de C, notamment ce qui concerne l'environnement. Là, je voudrais peut-être parler de réchauffement climatique. Le séisme qui frappe aussi notre pays, l'inondation, mais surtout le déplacement de la population dans des zones de conflits armés qui m'intéressera beaucoup plus davantage aussi à mon intervention. Mais peut-être de votre question de savoir comment nous jugeons l'impact des actions humanitaires en RDC. Je crois que c'est ça votre question, madame.
Oui, comment vous percevez en fait les actions, qu'est-ce que vous trouvez, quelle évaluation vous faites?
D'accord. Bon, à ce point, je pense qu'il y a des défis aussi à relever sur le plan surtout à sécurité et de crédibilité. Sécuritaire, pourquoi madame, je pense que d'abord, la plupart des actions humanitaires se passent dans des zones de conflits armés. Et ça, c'est les activités de trois, les activités humanitaires plutôt, sont sécurisées dans ces zones. Et par simple exemple, là, je voudrais peut-être vous faire un exemple, au mois de février, j'avais suivi sur votre chaîne dans le territoire de Fiji, où certains humanitaires du Sénégal ont été pris en otage par le groupe Maïmaïa Kutumba, des artisans de réanimement avec l'armée régulière. Cela vient nous poser le problème aussi de crédibilité de leur part aussi. Parce que quand on pose une action humanitaire, on doit éviter de faire la politique de la sous-commissaire. Cela ne permettait peut-être à bien faire leur travail sans aucune concrète. À cela j'ajoute encore le problème de détournement de vivre et non vivre par ce même activité humanitaire. Afin de tourner ce vivre non vivre à leur propre sens, au lieu de le distribuer à la population cible. C'est ça le problème aussi. C'est pourquoi je vous avais dit que je devrais relever deux points en ce qui concerne aussi le plan sécuritaire de crédibilité. C'est ça un peu mon intervention à ce sujet-là.
Mais vous avez fait allusion, vous avez dit politique de bouc émissaire. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, c'est ce que je disais à monsieur à propos des humanitaires qui ont été pris en otage par le groupe ministre de la Coutume dans la zone de Fiji. Les gars accusés de bouc émissaire de l'armée régulière. Donc c'est pourquoi ils doivent éviter de prendre ça. Même s'ils sont au terrain, ce n'est pas leur rôle d'aller faire l'enquête pour chercher le renseignement. Ils doivent faire leur travail qui les concerne. Ils faire le renseignement dans le terrain. C'est le premier chose que je veux dire. Parce qu'il y a parfois, ils ont des partialités. Sinon, des territoires, des groupes. Qui nous engagent sur ce, les informations, non, les données sur laquelle conscience de tout ça, ils doivent éviter cela, ils doivent faire le travail qui nous concerne, c'est ce que je voudrais dire, madame.
Merci, Séraphin, pour votre intervention. Ce soir-là, on revient encore à Kananga. Néville, bonjour.
Oui, madame.
Néville, on vous écoute.
Madame, c'est une bonne chose la célébration de cette journée des aides humanitaires à travers le monde. Je suis en train d'abord de m'étonner pourquoi on a institué cette journée au mois de décembre en 2008, cependant que les actions étaient visibles depuis très longtemps dans le monde. Vous savez, les tsunamis qui a eu lieu en Asie, j'ai fait un peu une rétrospective avant d'arriver en RDC. La communauté internationale s'était mobilisée pour venir en aide à cette population. C'est une bonne chose. Alors, en ce qui concerne notre pays, les actions sont tellement visibles et nous serons vraiment ingrats si nous ne reconnaissons pas les actions des aides humanitaires. Les humanitaires, d'abord, c'est un problème de volonté. Madame, vous savez que quelqu'un qui va disponibiliser ses fonds pour aider les gens, peut-être qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais mangé avec ces gens-là, mais il va disponibiliser les fonds, c'est une bonne chose. À Kananga, je pense que les actions se passent bon train. Mais néanmoins, je voudrais aussi faire certaines petites observations.
Mmh.
Oui, vous savez, on dit, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un sans lui-même, vous le faites contre lui. Alors, je pense qu'il faut commencer par une analyse réelle du contexte. Parce qu'une aide atteint son degré, c'est par rapport aussi au degré de justice de la communauté ciblée. Prenons par exemple une population qui est touchée, qui a besoin des aliments, vous lui apportez, je ne sais pas moi, des cahiers. Est-ce que vous avez répondu réellement aux besoins de cette population?
Oui, merci. Merci, Néville. On a compris votre préoccupation. Vous voudriez qu'il y ait une plus forte participation hein, des ONG locales, de la population, dans l'élaboration même de ce programme d'aide. Merci, Néville, pour votre intervention. Nous retournons encore à Baraka. On se trouve Emma, bonjour.
Bonjour.
Bon, nous vous écoutons. Quelle est votre perception des humanitaires?
Ok, moi, ma perception est très positive. Quand même, je ne dois pas être plus sceptique comme l'ami de Baraka qui m'a précédé sur le plateau, puisque les interventions humanitaires sont viables. Et on peut même le voir. Seulement, ce qui paraît être négatif, c'est que ces interventions ne profitent pas à la population sur le plan socio-économique. Parce que, des fois, même pour la distribution de vivres, il faut venir avec des gens, on est des chercheurs, permet d'œuvrer localement pour qu'ils profitent aussi de cette activité. C'est ce qui paraît être.
Mais souvent on engage aussi, souvent c'est
structures, oui, engagent
souvent
des
personnes pour certaines activités.
L'invité qui est à la base dans les studios, souvent. On ne l'engage pas localement, les gens sont exposés.
Merci Emma pour votre intervention. Cette fois, nous allons écouter Monsieur Alfredo. Il est de l'Organisation internationale COFI, une structure aussi qui est très engagée dans l'aide humanitaire. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Et vous êtes de COFI, donc cette structure, cette organisation internationale qui est engagée dans l'aide humanitaire. Dites-nous un peu cette journée pour vous, qu'est-ce qu'elle représente?
Qu'est-ce que représente l'aide humanitaire? Justement, c'est un soutien d'abord aux populations. Là, c'est la cible principale, et donc on a une approche communautaire dès le début, on est là depuis les années 70 en RDC.
Et surtout, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de ces tâches?
Donc, par exemple, si je prends les volets protection, protection des enfants, protection des femmes, des populations, la difficulté la plus grande, c'est qu'on ne peut pas toujours arriver à temps dans la majorité des villages, des certaines provinces, où on travaille dans cette province, donc c'est pas facile d'avoir l'accès. Et donc, c'est pas facile savoir exactement ce qui se passe, ça prend du temps, et voilà une parmi les majeures difficultés qu'on a dans l'aide humanitaire maintenant.
Mais dites-nous un peu, votre structure, votre organisation, souvent elle est focalisée dans quel domaine?
Donc, c'est toujours la protection, avant tout, après il y a le volet éducation, santé, environnement, donc l'aide humanitaire en général et la défense des droits de l'homme.
Il y a aussi certains auditeurs qui pensent que souvent, lorsque vous allez sur terrain, il n'y a pas vraiment une forte participation, une implication des populations dans les projets que vous élaborez.
Je pense qu'il faut du temps. Ce n'est pas facile de s'intégrer dans les communautés. Il faut vraiment étudier les liens qui lient l'un à l'autre et appuyer aussi les institutions pour se compter au niveau institutionnel. Donc, comment il faut organiser les communautés, ce n'est pas du tout facile à entrer comme ça. Donc, il faut être vraiment informé petit à petit.
Donc, il faut vraiment du temps.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Alfredo, pour votre intervention.
Merci à tous les écouteurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Canadi, vous avez suivi tous nos intervenants, ils ont soulevé leurs préoccupations et aussi il y a certains qui ont fait même des propositions, votre réaction?
Oui, je crois que il y a Assistance de Walikali qui a parlé d'associer les ONG locales, je crois qu'on en a déjà parlé. On associe toujours les ONG locales dans tout ce que nous faisons. Pour preuve, ils participent à toutes nos réunions de coordination ou les réunions d'information dans tous nos bureaux. Je prends l'exemple de l'Équateur. L'Équateur, il y a beaucoup d'ONG locales, nationales, qui sont en train d'intervenir maintenant dans la zone de Bozene, Boyazala, Kungu et Dongo. Dans la grande crise de Dongo, ils ont eu des financements à travers l'UNICEF, à travers les autres agences des Nations Unies. Donc nous travaillons, nous associons toujours les ONG locales dans tout ce que nous faisons. Et nous associons aussi l'autorité locale, comme on l'a dit.
Il y a un auditeur, par exemple, qui a soulevé la question des questions sécuritaires. Est-ce qu'un agent humanitaire peut récolter des informations sur la sécurité?
C'est comme nous, oui. On doit récolter. Comme nous, au Tchad, nous avons un mandat. Notre mandat à nous, c'est la facilitation. Nous devons faciliter les acteurs humanitaires à faire leur travail. Nous avons le plaidoyer. Dans la recherche de l'accessibilité, nous devons discuter avec ceux qui qui bloquent l'accès, qui empêchent l'accès. Et habituellement, ce sont les hommes
les groupes armés.
Les groupes armés. Habituellement, ce sont les groupes armés. Donc nous engageons des discussions avec les groupes armés pour leur faire voir notre vraie identité. Que nous, on est humanitaire, nous, on est neutre, nous, on est impartial, nous, on est indépendant. On n'est pas dans ce qu'ils font, Donc, on n'est pas dans le conflit.
Mais surtout le respect du droit international.
Humanitaire. Voilà, il faut qu'ils nous ouvrent la route pour que nous, on accède aux gens qui meurent, aux gens qui souffrent. Nous devons engager des discussions, mais parfois nous avons une incompréhension. On nous taxe parfois de complices, on nous taxe de ceci, mais on est neutre dans ce qu'on fait, on est neutre.
Bon, les informations que vous recueillez, par exemple, sur le plan sécuritaire, elles vous servent uniquement à pouvoir convaincre une partie ou une autre de pouvoir ouvrir un couloir humanitaire, ou bien vous les rapportez aussi aux autorités, ou bien cet rapport à...
Les informations nous servent à notre travail, uniquement à notre travail humanitaire. C'est pour accéder aux populations vulnérables, aux populations qui souffrent, aux populations qui meurent. C'est tout. Pour notre travail humanitaire.
Uniquement.
Uniquement.
Et concernant, parce qu'il y a un autre auditeur qui s'est posé la question sur l'aide, en revenant par exemple au budget, où est-ce que vous tirez en fait cet argent pour aider les populations sinistrées?
Voilà, c'est ce que ça revient à chaque fois quand on passe, on nous dit toujours, voilà, c'est notre argent, vous bouffez notre argent, vous travaillez avec notre argent. C'est l'argent de la communauté internationale. Nous avons des bailleurs qui répondent à nos demandes. Chaque année, nous élaborons un budget et nous demandons des cotisations de personnes, voilà.
Ces cotisations sont-elles obligatoires ou pas du tout?
Non, ce ne sont pas obligatoires.
Donc ça dépend si elles finissent quelque part, voilà. On lance
et nous lançons
les demandes et les pays contribuent.
Voilà.
Donc c'est un peu ça. Nous allons écouter aussi d'autres auditeurs qui veulent participer à notre émission. Il y a par exemple Paulin Gourou qui nous écrit à partir de notre adresse internet pa@radiocapi.net. Il nous écrit à partir de Maragui. Il écrit ceci: étant donné que je travaille dans une organisation non gouvernementale de dimension internationale à Maragui, laissez-moi vous avouer que les actions des ONG tant internationales, nationales que locales restent à saluer à leur juste valeur, malgré les petites failles qui ne manquent jamais dans la réalisation de toute œuvre humaine. Cependant, ma préoccupation reste celle de savoir à quand l'organisation d'un sérieux climat de travail dans d'autres secteurs d'emploi en RDC, si nos semblables ont rendu l'âme tout au long de leur carrière pour promouvoir la valeur humaine en RDC, ils sont prémices d'un avenir meilleur dans notre pays. Donc, ils saluent en fait toutes ces personnes qui sont mortes au nom de l'aide humanitaire.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour madame Maï Chantal.
Vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute.
Lubumbashi, j'aimerais un peu féliciter les humanitaires pour le travail qu'ils sont en train d'abattre, pratiquement si chez nous à la République démocratique du Congo. Je crois que si quelqu'un peut aller jusqu'au sacrifice suprême, mourir sur le champ à cause de cette action à aide humanitaire, je crois que c'est un travail très sérieux et qu'il faudra encourager. Et maintenant, moi, ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais te poser la question à l'invité. Est-ce qu'il leur arrive, par exemple, lorsqu'ils arrivent dans un territoire donné où ils sentent le besoin d'aider la population, et que sur le champ, peut-être les fonds qu'ils avaient arrivés à s'épuiser et qu'ils n'arrivent pas à continuer leur action, que font-ils? Demander encore de l'aide supplémentaire ou ils rentrent? Parce que souvent on apprend que lorsqu'ils sont sur le champ et que l'aide qu'ils avaient prévue arriver à s'épuiser, ils rentrent et laissent la population dans les mêmes difficultés. Ça c'est la première question. La deuxième question elle est la suivante. Est-ce qu'on travaille-t-il en complicité avec le gouvernement? Parce que quand nous voyons cette histoire d'aide humanitaire, c'est un effet. Mais c'est par exemple de la guerre, mais c'est par exemple des catastrophes. Maintenant, après cela, lorsque la population se rétablit, ont-ils le temps de s'attaquer aux causes qui ont amené ces catastrophes ou qui ont amené la guerre, ainsi de suite? Et est-ce que leur sécurité est-elle assurée par le gouvernement du pays où ils vont s'engager ou ils viennent eux-mêmes avec leur sécurité? Parce qu'à ce sens, il leur faut une sécurité bien appropriée.
Merci Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi. On écoute aussi Henri Joseph ainsi que le professeur Mbélingué qui pourra Mbélingué, je pense que c'est ça, qui pourra aussi s'exprimer. Et puis après, nous allons redonner la parole à notre invité. Bonjour Henri Joseph.
Bonjour maman Marie-Chantal.
On vous écoute, vous êtes un bon goût.
Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. D'abord, je salue tous les auditeurs de Radio Capi, de la République et de par le monde, particulièrement ceux de Dungu.
Mm-hmm.
Ok, l'action humanitaire chez nous, visiblement, nous voyons ces choses d'histoire apparentes. C'est comme tu dirais une clinique. Quand on vient, l'effet clinique consiste à donner la solution à des histoires apparentes. Mais on n'entre pas dans la profondeur.
Mm-hmm.
Moi, je suis écureux. Je suis né d'une localité agraire. Ngirima, Torima, Bangas, dans la périphérie, le territoire de Dungu, Farage, Nyangara, ce sont les trois territoires où les gens vivent d'eux-mêmes. Quand notre invité a parlé tantôt de maintenir la dignité humaine, je vois que la dignité humaine est foulée au pied. D'autant plus que nous qui étions habitués à manger de la banane plantée, que nous-mêmes nous plaçons,
mm-hmm.
De notre petite pêche, que nous-mêmes nous faisons. On nous amène les kaunga, des histoires importées, on ne sait pas.
Mm-hmm.
Si vous arrivez par exemple à Dungu sur place, les gens font les torches de kaunga. Il y a une région, peut-être au Soudan, où les gens sont habitués à manger les kaunga, mais ce n'est pas notre coutume. C'est pas aussi que l'axe d'Orima, Bangad est à insécurité. Il y a un autre axe qui va vers Tezo et il y a la forêt. Si on peut nous sécuriser sans soi, c'est pour que nous rattrions dans nos activités d'enfants, les gens.
Merci Henri pour votre intervention. Nous allons écouter aussi le professeur Mbélékansi, il est à Sivi. Bonjour professeur.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, je me demande si cette aide est dans toute la République.
Oui, si l'aide humanitaire, si
les... aide toute la République.
Donc, chaque province, il y a des populations qui reçoivent cette aide, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça.
Merci, professeur. C'est la seule préoccupation.
La deuxième question. Si ça aide toute la République, maintenant, il n'arrive pas à arriver là-bas à quelques kilomètres, comme le Fidji. Moi, j'étais à 180 kilomètres du Fidji centre.
Mm-hmm.
Maintenant, la guerre s'est passée là-bas, la guerre des Indérames contre le phare de feu. Les gens ont été trop soufflés, mais je n'ai pas vu. L'aide est là-bas, aider les gens là-bas.
Peut-être que c'est arrivé en retard. Hein?
Moi, j'étais une organisation de la jeunesse. Hein? On a fait une grande aide là-bas pour aider les gens là-bas. À peu près 50 personnes qui étaient soufflées là-bas.
Mm-hmm.
Mais on se demande, est-ce qu'il y a l'aide qui aide les gens là-bas?
Merci, professeur, pour vos préoccupations. Notre invité répondra, bien sûr, à toutes ces préoccupations. Nous allons écouter aussi Georges, avant de pouvoir donner à nouveau la parole à notre invité. Bonjour, Georges.
Ah, bonjour.
Oui, de Mboujimaï, on vous écoute.
Justement, personnellement, j'apprécie à juste titre l'intervention de l'aide humanitaire. Mais cependant, j'ai l'impression que, à force d'intervenir, c'est comme si le gouvernement, s'il était censé protéger et faire cette aide-là, n'arrive pas à le faire. C'est comme si le gouvernement est devenu impuissant et s'est réfugié à côté de l'aide humanitaire.
Mmh. Mmh, c'est ça votre préoccupation. Vous estimez qu'à force que les populations reçoivent l'aide, le gouvernement oublie un peu en fait ses prérogatives. Merci beaucoup, Georges, à partir de Mboujimaï.
Fini le week-end fatigant et sans intérêt, je suis Karine Galimbaer et je m'attelle à vous offrir le meilleur du week-end. Les potins des stars, les nouvelles de Radio Partenaire, les clubs d'auditeurs de Radio Capi, vous, en direct à travers vos dédicaces et sur Radio Capi. Le 9-13 de Karine Galimbaer, c'est samedi et dimanche sur la Radio de la Paix.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs. Se poursuit aujourd'hui, l'émission est consacrée à la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et aujourd'hui, nous avons dans ce studio M. Séraphin Kajadi, le chargé des affaires humanitaires adjoint au niveau du bureau de OCHA. Et vous avez suivi déjà la deuxième série d'auditeurs. Ils ont posé des questions, des préoccupations. Ils sont revenus aussi sur le fait qu'il n'y a pas assez d'implication des populations dans l'exécution de certains programmes. On vous écoute. Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces interventions?
Ce qui me rassure, c'est que la population, les intervenants apprécient à leur juste valeur le travail des humanitaires. Mais il y a un intervenant de Lubumbashi, Jean-Claude, qui a dit que il a demandé si la sécurité des humanitaires est assurée par qui. La sécurité des humanitaires, bien entendu, est assurée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui assure la sécurité des humanitaires. Et l'aide humanitaire est fournie avec le consentement du pays affecté par la crise. Et en principe sur la base d'un appel fait par ce pays affecté. Donc c'est le pays qui fait l'appel et c'est le pays qui sollicite et c'est le consentement, doit consentir pour que l'aide soit fournie.
Henri-Joseph, qui voudrait aussi savoir, il a eu des préoccupations, celui de l'auditeur de Fizi, qui se posait la question, est-ce que cette aide, toutes les populations bénéficient, quelles sont en fait vos conditions pour qu'une population puisse bénéficier de l'aide humanitaire, parce que de temps en temps, on a l'impression qu'il y a certains sinistrés qui sont privilégiés par rapport à d'autres.
Oui, il y a des évaluations qui sont faites. Des évaluations multisectorielles qui sont faites dans tout le domaine d'intervention. Eau, assainissement, santé, hygiène, sécurité alimentaire, nutrition. Il y a des évaluations et c'est sur base de ces évaluations que nous pouvons maintenant décider si nous pouvons ou nous ne pouvons pas intervenir.
Parce qu'il y a des populations qui ont peut-être le même problème, par exemple, à l'ouest, et des populations qui ont ce même problème à l'est, mais on a l'impression, par exemple, en RDC, que toute l'aide est plutôt focalisée vers l'est.
C'est la priorisation. Il faut prioriser le besoin. La priorité de besoin. On ne peut pas intervenir partout. Il y a beaucoup de problèmes en RDC. Si on veut intervenir, on interviendra partout. Parce qu'il y a deux problèmes partout. Mais on voit maintenant le niveau de vulnérabilité où on peut intervenir pour arriver à sauver des vies. Voilà. Donc, c'est un problème de priorité. Donc, on ne peut pas intervenir partout en même temps parce qu'on n'a pas assez de moyens pour intervenir partout en même temps.
Mm-hmm.
Donc, on cible maintenant là où il y a beaucoup plus de problèmes qu'ailleurs.
Mais on va écouter aussi Dr Richard, hein, qui a fait ça. Bonjour, docteur.
Bonjour, Titi. Non, c'est Marie Chantal, je crois.
C'est Marie Chantal. D'ailleurs, Titi
est
là.
Titi
est là, je vous dis, du côté de la réalisation. Merci. On lui salue aussi. Docteur Richard, on vous écoute. Vous êtes ici à Kinshasa.
Oui, moi, je voudrais apporter un témoignage parce que je suis allé aider le peuple burundais afin que sa souffrance soit soulagée. Pendant que ce peuple était dans une guerre civile qui a fait la honte de ce pays. Mmh. Alors, voici mon témoignage. Nous sommes allés là-bas comme médecins de santé publique, mais comme aussi médecins, parce que il y avait premièrement des épidémies à combattre, entre autres les poux du corps qui donnaient ipso facto la rickettsiose qui tuait beaucoup, le choléra, la diarrhée rouge, et puis le mal dû au SDF, c'est-à-dire déplacement donc sans domicile fixe.
Mm-hmm.
Et il y avait la malnutrition et tout ça. Alors, deuxième problème, c'était les blessés. C'est là où je faisais le médecin chirurgien aussi. Parce que par ma formation de médecin généraliste, d'antan, je sais opérer. Alors, troisième chose, on s'occupait de la supervision pour des raisons de santé, des agglomérations provoquées par le déplacement des populations, donc les déplacés. Alors, nous sommes sortis avec une bonne cote accordée par le régulateur de l'OMS, parce que dans le programme qui était à cette époque-là, le continuum, j'évoluais au programme de santé qui était logé à l'OMS. sous la direction de M. Bernard Lala, que je salue. Alors, nous avons œuvré comme ça, et nous avons aidé les autres. Ce que je voudrais dire comme ça, pourquoi ? C'est que les Congolais ne sachent pas que les Congolais ne sont pas allés ailleurs pour aider les autres. Moi, je suis allé. Il faut que leur discours soit tendre envers les humanitaires. Nous savons qu'ils ne sont pas des saints, mais que ce soit tendre, qu'ils apportent leur contribution dans l'encadrement de la communauté congolaise qui est dans le besoin d'être soutenu, dans le besoin d'être aidé, dans le besoin d'essuyer les larmes qui coulent au jour le jour. Et vous savez, j'étais dans la situation qu'on appelait duty station non family, c'est-à-dire on n'avait pas de famille, j'étais seul. Imaginez un peu, tu fais 3 ans et 8 mois dans cette situation, j'ai vu des amis tomber dans la dépression. Donc, que le Congolais soit tendre dans ses propos, ces gens sont venus aider les Congolais qui ont des problèmes qui sont visibles. Ce n'est pas de la fiction.
Merci beaucoup.
C'était ça ma contribution.
Merci beaucoup, docteur Richard, hein, pour votre témoignage. Je pensais que c'est vraiment assez difficile hein, de pouvoir travailler en tant qu'humanitaire. Encore une fois, merci. Nous allons écouter aussi Roger de la Kananga. Bonjour.
Bonjour, madame.
Et Roger, on vous écoute.
Oui, merci. Moi, je suis content qu'on ait eu un médecin qui a intervenu. Ce que je retiens, il a parlé du bien et il a parlé du maigre en Ouganda. Quelque part, le fait qu'il y a un lieu, parce que parce que nous parlons du maigre, pourquoi il doit y avoir une aide à ce qu'il y a une guerre ? Qui sont ceux qui provoquent cette guerre-là ? Et qui sont ceux qui donnent des stressés de la guerre ? Et qui est du monde de ces guerres-là ? Nous prenons le droit de notre pays. La guerre a eu lieu à l'Est. Actuellement, on parle du pétrole à l'Est. Toutes ces ONG de l'humanité sont tous basées à l'Est. Ici, on est du monde. Tout le temps, le fait le multinational anglais, l'américain. Tout le temps, c'est moi qui me confie. Mais nous sommes dans un peuple où on provoque des guerres et on est en train de faire des aides. C'est d'ailleurs une solution. Et si nous sommes, oui, mais. Dans la phase B, par rapport aux responsables que nous avons. Donc, là, nous allons dire qu'il faut quelque chose. Mais en fait, la réalité, c'est que nous, pour les gens qui se sentent africains congolais, papa, maman, ne font absolument rien.
Oui, mais Roger, mais dites-nous, vous avez essayé de décrire ce que vous avez constaté, mais dites-nous, qu'est-ce qui devrait être fait, quelles sont vos propositions?
Mais c'est pas connu cette guerre que nous avons, c'est qui le souci de donner à la guerre.
Merci.
C'est la même personne qui finance le fait d'avoir aide.
Merci Roger pour merci votre intervention. À partir de Kananga, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Il y a un autre auditeur, Imurani Sapro, il nous écrit à partir de Kindu. C'est dans la province du Maniema. Il est vrai que les actions des agences humanitaires dans notre province du Maniema ont un impact très considérable, car sans elles, le gouvernement ne s'en tirerait pas. Les cris de la population seraient très graves alors. Grave, parce que très grave, vous avez vu ça, grave. Mais quoi qu'il en soit, celle-ci n'associe pas souvent la population. Les projets sont conçus pour plaire aux bailleurs. Voilà encore des préoccupations. Séraphin Kazadi, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre dernier auditeur qui pense qu'il faudrait peut-être attaquer et faire un effort qu'il n'y ait pas des guerres pour éviter. Il pense aussi que l'aide humanitaire est politisée.
Notre travail n'est pas de sensibiliser les gens qui font la guerre, parce que nous, on n'est pas dans la guerre, nous, on est dans la paix. Notre auditeur de Kananga, pour le moment, à Kananga, il y a un conflit. La semaine passée, il y avait un conflit intertribal. Deux tribus se sont battues. Il y a eu incendie de plusieurs cases. Et là, c'est la communauté internationale qui est venue appuyer le feu à Kananga. Parce que nous, on a été là, on a fait une évaluation, on va bientôt intervenir. Il va dire que c'est l'ONU qui est allé pousser ces gens à se battre et à incendier de maisons. Donc moi, je pense que là, il n'y a pas de débat. Nous disons que nous ne pouvons pas intervenir partout en RDC, parce que pour intervenir, il faut une évaluation de besoins sur base de la définition de seuil dont le franchissement signale la nécessité d'une action humanitaire. Donc, nous avons de besoins, nous avons de moyens très limités et nous ne pouvons intervenir que là où le seuil signale réellement la nécessité d'une intervention humanitaire. Et pour terminer, je vais vous dire que l'action humanitaire en RDC en 2009, on a eu plus d'un million de personnes qui ont eu accès à l'eau potable, Quelques 500 000, enfants non scolarisés sont retournés à l'école. 1 300 000 personnes dans des zones auparavant inaccessibles ont pu atteindre, grâce à la réfection de ponts, routes et la mise en circulation de vols. Nous avons soutenu 500 centres nutritionnels, réinsertion sociale et économique de plus de 12 000 personnes, distribution des rations alimentaires à 2 800 000 personnes, distribution des kits de biens non alimentaires à 280 000 personnes, soutien à plus de 6 700 victimes de violences sexuelles, 80% de couverture vaccinale contre la rougeole. Donc, on a la liste est longue.
Et longue. Donc, c'est le travail que vous êtes en train de faire ici en RDC. En tout cas, nous vous disons merci, M. Serapet Azadi, pour avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé des affaires humanitaires. Vous êtes adjoint, en fait, chargé des affaires humanitaires au niveau du bureau de OCHA. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission et ceux qui nous ont écoutés.
Allô? Oui. Il ne répond pas?
Nous prenons rendez-vous avec vous pour demain, un prochain numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons parler de nous allons faire un état des lieux des cimetières en RDC. Et nous avons comme accroche, en fait, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kumbuta, a inauguré le dimanche 1er août un nouveau cimetière pour la ville de Kinshasa. Il est situé dans la commune de Sélé, à l'est de la capitale. Cela nous permet de pouvoir faire un état de lieu sur tous nos cimetières ici en RDC. La question pour lancer notre discussion, quel état de lieu faites-vous des cimetières dans votre milieu? Si vous voulez réagir, faites-le dès à présent. Nous écrivons l'adresse internet @radio-okapi.net et ce sera à partir de demain, à partir de 10h30, que vous pourrez commencer à vous inscrire pour pouvoir participer à cette émission. Nous disons merci à Titine Foutou, à Pierrot et la Mégie qui était à la réalisation de cette émission, mais aussi nous disons merci à Sylvain Matundou, notre technicien qui a permis à ceux qui puissent suivre cette émission, et à demain. Oh, happy, happy, oh, happy.